Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast B2B Stories, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale retour au business intitulée Back on Stage, qui est priorité et enjeu pour les commerçants dans leur retour sur scène. Nous aborderons les nouveaux comportements des clients, la sortie du coma artificiel, comment saisir et profiter des nouvelles opportunités et les nouvelles précautions. Pour en parler, j'ai invité Stéphane Munier, CEO de TBMS, et Flora Wolfer, directrice marketing de Payplug. Salut, comment allez-vous?
Bah, très bien, merci. Ravi d'être là.
Stéphane?
Bonjour Mohamed, ravi d'être là aussi, super, en pleine forme, beau soleil, tout va bien.
Eh bien écoutez, je vous propose de débuter cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quelques mots sur votre société?
Parfait. Flora Wolfer, je suis à la tête du marketing chez Payplug. Et Payplug, c'est la première solution de paiement par carte bancaire à destination des PME. C'est une entreprise française qui a été rachetée en 2017 par Natixis.
Stéphane Munier, je dirige TBMS, qui est un institut de marketing et de planning stratégique spécialisé dans le B2B. TBMS, ça veut dire To Be More Specific.
Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et ma première question, elle est pour toi, Stéphane. Et puis, bien entendu, Flora, tu pourras venir la compléter. N'hésitez pas, hein, dans les deux sens. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux comportements? Et si oui, pourquoi?
Alors, tu t'en parlais dans l'introduction, on rentre un petit peu dans une, enfin pas un petit peu, on rentre dans une nouvelle ère parce que cette crise du coronavirus, c'est un changement structurel. Et cette nouvelle ère, c'est une ère qui va être sous le signe de la précaution. Non seulement il va y avoir des précautions au niveau des exportations, de tout ce qui va réguler les marchés, les systèmes, mais aussi beaucoup de précautions quand on est client, collaborateur, employé, citoyen ou usager des transports publics. On le voit déjà, et ces nouveaux protocoles, ces nouveaux standards vont durer. Donc, bien sûr, cette ère de la précaution, elle impacte, en plus de la récession à venir, elle impacte les comportements. Alors, sur ces nouveaux comportements, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est une étude qui a été menée par EY récemment auprès de consommateurs du États-Unis, Canada, France, Angleterre, sur les nouveaux comportements qui vont émerger après le déconfinement. Et il y a 5 comportements qui ressortent. Il y a un premier groupe de consommateurs qu'ils ont qualifié de les keep cutting, c'est-à-dire ceux qui sont contraints, qui vont continuer à réduire leurs dépenses. Il y en a à peu près 13%. Le deuxième groupe, ils les ont appelés les stay frugal. Donc, c'est ceux qui sont très pessimistes sur l'avenir, qui font attention à leurs dépenses, mais surtout qui vont pratiquer des coupes budgétaires drastiques sur certains postes du budget du ménage. Là, il y a à peu près 22% de l'échantillon. Et puis, le troisième, c'est les... Voilà, tout est normal, on reste normal. Il y a à peu près un tiers de gens comme ça qui ont été assez peu impactés par la pandémie, qui sont pas vraiment préoccupés par l'épidémie non plus, ils n'ont pas très peur, s'inquiètent un peu pour leur famille. Et il n'y a pas de changement majeur à attendre sur leurs dépenses. Ils vont revenir comme avant. C'est back to normal. Le quatrième groupe, à peu près un quart des consommateurs, est qualifié, enfin, ils les ont nommés chez Ernst & Young les cautiously extravagant. Donc, les gens qui sont prêts à être un petit peu, on va dire, enthousiastes, différents, mais qui font quand même attention à ce qu'ils font. Donc, c'est plutôt des revenus supérieurs, moyens à élevés. Ils sont très conscients qu'il y a une récession qui s'annonce, mais ce sont des gens optimistes, plutôt centrés sur le bien-être, la santé, qui vont être prêts à payer un premium pour certains produits ou certaines propositions de valeur. Et puis, le dernier groupe que je trouve assez intéressant, qu'ils ont qualifié de « back with a bang », voilà, 10% à peu près, ce sont les jeunes, ils sont actifs, leur quotidien a été très perturbé par le confinement et eux, ils veulent se rattraper. Et ils veulent se rattraper sur tous les compartiments du jeu. Hein. Les loisirs, les vacances, l'habillement, les plats préparés, les boissons. Enfin, eux, ils vont repartir avec un grand sentiment d'euphorie. Donc voilà, c'est intéressant de voir que finalement, quand bien même la récession s'annonce, il ne faut pas forcément tout dimensionner dans sa stratégie sur les 35% de consommateurs qui vont être évidemment très, très regardants sur leurs dépenses.
Florin, excusez-moi. Merci Stéphane. Flora, tu as vu des nouveaux comportements, toi, chez vos nouveaux clients, chez Peplug?
Oui, tout à fait. C'est intéressant, Stéphane. Tu as choisi de te diriger du côté des comportements des consommateurs. Moi, effectivement, mon premier réflexe, c'est aussi de m'interroger sur les comportements des marchands et des chefs d'entreprise en France. Et nous, on a vu pas mal de changements. Et je pense que ça va aussi impacter la manière dont les commerçants vont aussi s'organiser pour l'avenir. Qu'on a vu, on a eu des belles surprises. Hein. Nous, on est en fait un bel observatoire des PME françaises puisqu'on a énormément de flux qui passent par notre solution. Et en fait, on a eu des belles surprises. Pas mal de marchands qui ont essayé de trouver des solutions très pragmatiques dans l'urgence, pour répondre à la crise, pour répondre aussi à des nouveaux besoins de consommateurs qui cherchaient un petit peu à consommer plus solidaire. Et en fait, quels que soient les secteurs, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de normes. On pourrait imaginer que c'était que l'alimentaire, par exemple, pas du tout. Il y a eu énormément de nouvelles choses qui sont sorties. Et en fait, moi, si je devais résumer en deux mots ce qui s'est passé, c'est que je pense que le e-commerce a pris 10 ans en 3 mois. En termes de maturité. Ouais. Pourquoi ? Parce que le e-commerce, c'est une question de confiance. Il faut avoir confiance dans le site internet dans lequel on achète. Il faut se dire qu'on va recevoir le produit. Il faut accepter de donner ses informations bancaires, etc. Et en fait, on avait déjà l'habitude de faire confiance à des grands sites. Je pense à Amazon, au site de la SNCF, etc. Et maintenant, c'est devenu absolument normal dans la tête de la plupart des consommateurs, d'acheter sur un site sur Internet, même si ce n'est pas un grand site et un grand retailer. Ouais. Et ça, c'est un changement qui va être hyper structurant pour la plupart des PME françaises parce que ce travail d'acculturation et de création de confiance qui prend énormément de temps, a pris un énorme bond en avant, là, en quelques mois. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et ce sera intéressant de regarder comment est-ce que ces projets digitaux qui ont été accélérés, comment ces comportements sur le e-commerce vont se pérenniser avec une reprise plus normale. Je ne veux pas dire que ce sera tout comme avant, mais en tout cas plus normale des comportements.
Est-ce qu'on revient, Flora, vers un commerce de proximité ?
J'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que beaucoup de réactions en fait à cette crise a été de se dire comment est-ce que moi tout seul chez moi je peux être utile. Et en fait, une des manières que les gens ont pu trouver d'être utile en dehors d'actions de solidarité plus brutes comme d'aller aider dans les hôpitaux ou de faire des courses pour des personnes âgées, ça a été de se dire je vais soutenir par ma consommation. Les entrepreneurs et les entreprises locales. Ça a été très vrai, en particulier en région. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour dire je vais aider mon commerçant, mon restaurateur, mon boucher, mon boulanger, etc. à maintenir une activité et à ne pas devoir licencier des gens. Et en fait, les commerçants de proximité sont devenus le relais d'une grosse partie de nos relations sociales puisqu'en fait, on ne pouvait pas avoir d'autres types de relations. Et ça, c'est un vrai changement qui est assez impressionnant.
On a cherché à privilégier donc les relations et le business de proximité pour deux raisons. Un, pour répondre à ses besoins perso, c'est ça. Et la seconde raison, pour aider ces commerçants à sortir la tête de l'eau et pérenniser leur activité.
Tout à fait.
Alors, les entreprises qui survivront au tsunami, ce fameux tsunami du Covid-2019, devront reconstruire leur retour sur scène. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant 2 mois ? Comment les entreprises ont vécu ce tsunami ?
C'est un petit peu en fait comme si toute l'économie avait été mise en coma artificiel et puis qu'on est en train de rebrancher le malade. Et c'est vrai que quand on sort d'une phase comme ça, d'un coma artificiel, et il faut prendre son temps pour revenir sur scène parce que voilà, les muscles ont fondu et on n'est pas du tout en situation d'aller courir un marathon, si je puis dire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une phase de réathlétisation. Et c'est un petit peu ce qui va s'organiser pour les entreprises, leur écosystème, leurs fournisseurs et bien sûr leurs distributeurs et leurs clients. Donc, il faut que voilà, cette remontée en puissance se fasse en veillant à ce que tout ça soit le mieux synchronisé possible pour toute la chaîne de valeur et d'approvisionnement.
Est-ce que tout le retour sur scène, en fait, est-ce qu'il peut être direct ou est-ce qu'il sera forcément progressif, Laura ?
Alors, je pense qu'il sera assez progressif, mais qu'encore une fois, c'est difficile de faire des généralités. Il y aura des acteurs qui vont se retourner ou en tout cas se remettre en marche plus ou moins rapidement. Moi, ma perception un petit peu de ce qui s'est passé pendant ce confinement, c'est que, en fait, un peu comme les individus, il y avait un peu deux camps. Il y a ceux qui ont trouvé le moyen de passer leur confinement au soleil, dans une maison, ouais, avec un peu de place, etc. Puis ceux qui sont restés complètement prostrés, soit par obligation, soit par peur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça et c'est hyper légitime. Mais en fait, du coup, forcément, la sortie va être assez similaire aussi. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a énormément de gens qui, pendant ce coma artificiel, se sont dit très vite, il faut que je trouve une solution pour remuscler mon jeu, justement, comme disait Stéphane. Et qui donc se sont lancés dans des projets de digitalisation, qui ont essayé de monter des projets, de trouver des astuces pour contourner un petit peu le problème. Puis bah il y a ceux qui soit l'ont subi de plein fouet la conjoncture. Hein, quand on est restaurateur, on peut pas faire grand chose. On a beau être malin, malheureusement les possibilités sont assez limitées. Et qui probablement vont effectivement avoir besoin de récupérer de la trésorerie, une certaine sécurité financière. Et ça va être vraiment difficile. Pour ceux qui ont déjà réussi à contourner un peu le problème, je pense qu'il y aura des vraiment très belles surprises, une digitalisation, des nouveaux usages qui vont les aider à reprendre très vite. Donc, moi, je pense qu'il y aura une vraie prime à ceux qui sont malins ou qui ont réussi à bien se digitaliser, à organiser la reprise. Et ce qui est assez joli là-dessus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'élan de solidarité ces dernières semaines de la part d'acteurs de la tech pour assister les entreprises dans leur reprise. Et donc, moi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Je pense qu'il y aura des reprises très, très rapides pour certains secteurs.
Oui, on avait mené une émission spéciale Covid avec une quinzaine de sociétés du digital qui avaient participé aux rencontres internationales du marketing. Et tous les décideurs nous avaient dit, on abandonne une grande partie de la prospection, on se reconcentre sur nos clients, mais surtout, on prépare l'avenir et c'est presque une opportunité de prendre le temps de repenser nos produits. Stéphane.
Exactement.
Ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si ce n'est que ça va être. Enfin, c'est un petit peu délicat pour les dirigeants et pour les entreprises parce que il y a à la fois cette phase de résistance là où certaines sont encore quand même à essayer de stabiliser la situation parce que c'est quand même assez rock'n'roll et ça va le rester pendant quelques temps. Et puis en même temps, il va falloir s'habituer à sortir de cet état-là. Il y a des aides gouvernementales qu'il va falloir débrancher, donc ça va être, il va falloir s'habituer à quand même à revoler un petit peu de ses propres ailes et tout ça, ça demande quand même de l'énergie, des ressources et temps en mémoire. Et puis à côté, comme on le disait à l'instant, compte tenu de tous les nouveaux comportements, du e-commerce qui a pris 10 ans de maturité, comme tu le disais, Flora, enfin, tout ça va créer effectivement beaucoup d'opportunités qui conduisent les entreprises à imaginer l'avenir, à rebondir avec des nouvelles propositions de valeur, de nouvelles façons d'envisager des expériences pour leurs clients, de nouveaux profils de clients à séduire. Donc, ces trois tempos-là, ils sont quand même un petit peu délicats à gérer. Et moi, je retiens une chose quand même, c'est qu'en règle générale, on va sûrement essayer de faire moins, mais de faire mieux.
Ouais. Tu parlais de plan de rebond, Stéphane, à l'instant. Quelles seront, selon toi, les étapes clés de ce plan de rebond ?
Bah, c'est un petit peu ce que je disais, c'est qu'il faut… Il y a une étape de continuer à faire face à l'urgence parce qu'elle est toujours là, et puis se relancer et remonter en réathlétisant l'ensemble du processus et de l'écosystème, et puis enfin se projeter dans l'au-delà et se dire quelles sont les opportunités qui vont nous permettre de finalement émerger et peut-être tirer parti du changement de paradigme, du changement structurel qui est en train de se faire. Et là, je crois que c'est dans l'intérêt des entreprises que de constituer des équipes dédiées, voire même au sein de leur écosystème, pour imaginer l'avenir. Parce que c'est assez facile de travailler sur la partie, on va dire, exploitation, optimiser l'exploitation, réduire les coûts, améliorer les process, simplifier, tout ça, c'est assez facile. On peut le faire en télétravail, on va dire que c'est télérobuste de faire ça, changer son fonctionnement. Par contre, pour tout ce qui est lié à l'imagination, à inventer le futur, à innover, à développer des nouvelles formes d'expérience, c'est un petit peu plus délicat. Ça relève de l'exploration. Et là, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il y a une grande incertitude. Personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Et c'est pas en s'appuyant sur les données qu'on a qui concernent le monde d'hier qu'on va pouvoir faire tourner nos modèles de prédiction marketing et repartir comme si de rien n'était. Parce que ces données-là, elles sont plus valides.
C'est vrai que c'est assez intéressant, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Stéphane, parce que nous, on a observé beaucoup ces dernières semaines qu'il y a eu une mobilisation très réactive. Au sens premier du terme, on essaye de réagir le plus efficacement possible à une situation de crise et on est dans la mobilisation presque guerrière pour trouver des solutions. Et on s'est tous accrochés à une date butoir, alors là, qui se rapproche plutôt du 2 juin, qui était mi-mai initialement, de dire, bon, bah là, subitement, le monde reprendra. Et en fait, la fin du courant qui commence à se préciser là en ce moment, nous montre que tout n'est plus comme avant. Et que là où on a d'innover dans une forme de certitude qui nous confortait, qui a été beaucoup développée aussi par tous les outils digitaux où on imaginait qu'on était capable de prévoir très précisément parce qu'on était capable de collecter énormément de données, tout ce qui allait se passer. Et là, en fait, on est dans une période très schumpeterienne on ne sait pas du tout. Il y a une incertitude permanente. C'est ça qui va permettre une innovation très forte en réalité, puisque en fait il va falloir sortir complètement du cadre établi pour s'en sortir. Donc ça va être violent pour beaucoup, mais ça va être aussi des opportunités assez incroyables, et gérer la fin de cette incertitude là ça va être une période très charnière mais passionnante, en particulier pour des équipes marketing dans les prochains mois.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le nœud du problème. Et je crois que s'agissant de cette question d'innovation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, comme les comportements clients ont radicalement changé, je crois que les marketeurs vont devoir revoir leur approche de la connaissance client. C'est-à-dire que il faut maintenant avoir une approche beaucoup plus dynamique de la connaissance client, parce qu'on ne peut plus s'appuyer comme on le faisait sur les données qu'on avait parce qu'elles ne sont pas capables d'expliquer l'avenir, qu'il faut repartir sur une nouvelle façon, beaucoup plus dynamique, de reconstituer, d'observer des données nouvelles, de reconstituer un pool de données avec une approche beaucoup plus dynamique et de chaque singularité de chaque client. Ça, c'est très intéressant parce que ça rebat les cartes, ça change les approches.
Oui, parce que même les clients eux-mêmes sont en attente, en fait. N'ont pas de visibilité. On a besoin aussi de les rassurer. Et ça va être le rôle du marketing et de la communication.
Exactement.
Mmh. Tout à fait. On parlait beaucoup ces dernières années, de remettre du sens dans le marketing. Mais souvent, ce qu'on voulait dire derrière ça, c'est du storytelling. Et en fait, je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu en train de changer, qui va au-delà de ça et qui va être… en fait, maintenant, on s'attend à ce que les entreprises… et une autre forme de responsabilité parce qu'elles sont en fait engagées dans une reprise plus sociale, encore une fois. C'est elles qui vont être en première ligne pour permettre aux gens de se revoir, d'avoir des interactions, etc. Donc elles prennent un rôle qui est différent. Et donc, cette quête de sens dont on parle comme d'un espèce de Graal quand on est marketeur, elle a encore changé. Et ça va être passionnant, ça va être difficile aussi, ça va nous forcer à nous remettre beaucoup en question, mais ça va être passionnant dans les prochains mois de voir comment est-ce qu'on va remettre ce sens-là dans notre métier au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement du storytelling.
Oui, parce que le storytelling, en quelque sorte, on pouvait l'inventer. Là, on a des consommateurs qui sont en recherche d'authenticité, qui sont en recherche de valeurs, et ces valeurs-là, il va falloir les prouver. Stéphane ?
Ces clients-là, ces consommateurs dont tu parles, ils sont à la fois clients, consommateurs et citoyens. Et ils sont très exigeants vis-à-vis des organisations et des marques. Et ils attendent de ces organisations, de ces marques, qu'elles aient un impact, bien sûr, sur le plan économique, mais aussi environnemental, sociétal, qu'elles jouent en faveur de la diversité, qu'elles protègent le tissu économique local, comme on le disait plus tôt. Donc, effectivement, ça met une grande pression sur les marques et les organisations. Et on a vu récemment le très bel exemple que Danone nous donne avec Emmanuel Faber là, qui a donc annoncé qu'elle soit encore validée par l'Assemblée Générale, mais qui a annoncé que Danone allait devenir le premier groupe du CAC 40, la première entreprise cotée à adopter un statut d'entreprise à mission, c'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise qui a une raison d'être et qui va mesurer sa performance pas simplement sous l'angle ou l'indicateur de la création de valeur simplement économique.
Qui va mettre du sens, en fait.
Environnemental et sociétal. C'est très important, ça.
Qui va créer du sens dans son, dans son fonctionnement.
Bah ouais.
Ouais. En fait, moi, c'est une idée, c'est un point de vue personnel. J'ai l'impression que le Covid-19, quand même, c'est un test grandeur nature pour la transformation digitale et pour l'innovation.
Ah oui, c'est certain. C'est certain. En fait, une entreprise qui aurait simplement, globalement, hiberné pendant la crise et qui espérerait aujourd'hui reprendre ses activités comme en 40, se leurre complètement. Aujourd'hui, on a appris à consommer autrement. On a pris conscience aussi de l'importance de nos entreprises pour l'économie. On a pris aussi conscience que de dépendre de tout le reste du monde, ça a posé un certain nombre de problèmes le jour où les frontières se fermaient. On va devoir apprendre cet été à partir en vacances en France. Bref, toutes nos habitudes là sont en train d'être remises en cause. Et c'est ce qu'on disait un peu avant.
On a surtout appris à travailler différemment, de façon beaucoup plus peut-être efficace et ensemble.
Tout à fait. On a appris, enfin, globalement, le monde d'hier n'a plus rien à voir avec ce qui est en train de se créer aujourd'hui. Et en fait, du coup, une entreprise qui essaierait de reproduire, encore une fois, des modèles historiques va droit dans le mur, à mon avis. Et ça, moi, j'espère que ce sera un moyen pour que d'autres entreprises émergent, et en particulier toutes ces entreprises, ces petits commerçants, ces PME, etc., qui vont, s'ils sont malins, et encore une fois, c'est ça qui peut être un enjeu compliqué, hein, parce que l'innovation, c'est aussi parfois une prime à celui qui est capable de plus investir.
Bien sûr.
Le fait qu'en ce moment, on soit en train de remettre en cause une hyperconcentration, etc., peut donner une chance à des plus petites entreprises un peu malines qui voudraient proposer de faire autrement. Il y avait quelque chose qu'on voyait beaucoup émerger ces derniers mois, donc qui commençait un peu à devenir le buzzword à la mode, c'est les DNVB. Ces entreprises qui sont nées du digital et qui se spécialisaient dans une branche, une verticale très précise, et qui proposaient de consommer un peu autrement. Je trouve que c'est intéressant de partir de cet exemple-là pour imaginer un peu ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, parce que c'était une tendance, une lame qu'on commençait à voir un petit peu monter de ces consommateurs qui voulaient plus d'intermédiaires, une expérience beaucoup plus personnalisé et un rapport à la consommation personnalisé et personnifié. Un des très beaux exemples de ça, c'est Cézanne, qui en quelques années, donc c'est une marque de prêt-à-porter féminin, maintenant masculin aussi, qui en quelques années en fait est devenue une forme d'empire avec des taux de réachat impressionnants, qui commence à mettre en place une vraie manière différente de consommer. Et ça, ils ont complètement mis un coup de pied dans la fourmilière du retail habituel et d'acteurs comme Zara, par exemple. Et ce type d'innovation-là, cette connaissance client qu'ils ont aussi été capables de développer, ces nouveaux types de produits qu'ils sont capables de proposer, c'est ce qui leur a permis aujourd'hui de commencer à créer des changements majeurs dans la consommation. Et je pense qu'en fait, des entreprises qui sont capables de faire ça, vont sortir leur épingle du jeu d'une manière hyper impressionnante dans les prochains mois. C'est des business models qui sont compliqués en période de crise, a priori, puisque c'est une réduction relative du taux de marge, une gestion de bout en bout aussi de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, il y a un risque qui est augmenté. Mais en réalité, la prime à ceux qui réussissent est colossale. Et ça, c'est assez intéressant comme type de changement qu'on voit s'amorcer. Je pense que ceux qui pensent faire comme avant se trompent complètement.
Se trompent complètement. On parlait des...
Vas-y, Stéphane. Je vais ajouter un truc là-dessus. Parce que c'est tellement important, là, ce que vient de dire Flora. Et surtout que ceci se passe dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier... C'est quoi ? C'est la montée en puissance des géants de la tech US et chinois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces initiatives-là, les Amazon et autres Alibaba ou Meituan vont prendre une part de marché considérable de ces nouvelles habitudes de consommation liées au télétravail, au e-commerce ou manger à la maison. Ouais. Donc
Mais j'allais y venir, Stéphane. C'est pas le moment.
Pardon, excuse-moi.
Oui, non, je t'en prie. J'allais y venir. C'est pas le moment pour les petites entreprises de rétablir leur rapport de force.
C'est une opportunité, hein, parce que les commerçants que Payplug peut aider à faire face, ils ont ces géants de la tech en face. Hein. Meituan, qui est le géant de la livraison des repas chinois, ils ont 65% de part de marché, ces gens-là. 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 450 millions d'utilisateurs. La capitalisation boursière a bondi de 30% en un mois. Donc, il y a cette espèce de vague de géants qui déferlent mondialement sur les marchés, et il faut absolument protéger ce tissu de PME innovantes, locales, qui vont nous fournir une expérience humaine différente.
Mais je vais faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. On est aujourd'hui plus à la recherche d'authenticité, de valeur. Est-ce que ces entreprises, ces grands groupes, ces GAFAM, géants du web chinois à côté, elles n'incarnent pas, pardon, cette authenticité, ces valeurs-là? C'est pas nos valeurs, c'est pas l'authenticité qu'on recherche aujourd'hui.
Alors là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une espèce de schizophrénie du consommateur qui est assez classique. Ouais. D'un côté, on a envie de consommer responsable. Ouais. D'un autre côté, c'est pas toujours si simple, malheureusement.
Pour des raisons de budget, c'est ça ?
Pour des raisons de budget. Alors, il peut y avoir des raisons de budget pures et simples, et ensuite aussi d'accessibilité. Aujourd'hui, Amazon, la promesse qu'ils ont et qui nous fait rager chaque jour, c'est que tu peux trouver tout ce que tu veux à un prix souvent très bas, sans frais de livraison.
Comparé.
Et comparer effectivement. Et dans ta boîte aux lettres ou sur le pied de ta porte, dans les 24 heures. Cette promesse de valeur-là, elle est inaccessible, mais absolument inaccessible pour l'énorme masse d'entreprises. Je ne parle même pas d'auto-entrepreneurs ou de toutes petites entreprises, non, même des PME qui ont quelques centaines de salariés ne pouvaient même pas imaginer avoir accès à ça. Et du coup, forcément, stratégie du cheval de Troie, Amazon très malin, dit, on lançait une offre de marketplace et puis on dit, il n'y a pas de problème, du coup, vendez chez nous. Ça pose problème, bien évidemment, à mon avis, parce que ça les rend complètement dépendants d'une superpuissance qui, bien évidemment, a tout à fait intérêt à ce qu'ils aient le plus possible de produits disponibles, mais par contre, souvent à des conditions qui sont très compliquées en termes de marge, en termes de suivi même de la clientèle pour toutes ces PME. Pour une raison très simple, franchement, moi, entre acheter, je ne sais pas, un câble d'ordinateur Amazon et un câble d'ordinateur vendu par mon revendeur Mac du coin, en fait, je vais toujours choisir Amazon si je suis dans un environnement Amazon. Alors que pourtant, potentiellement, ce revendeur, il est capable de m'apporter des conseils parce que je ne suis pas forcément une experte en informatique, il est capable de m'apporter de la garantie. Bref, il y a plein de choses qu'on a tendance à oublier si elles sont dans des grandes marketplaces comme ça. Alors, je prenais cet exemple-là, mais on peut le diffuser un peu partout sur tout type de case study. Et donc, c'est ça qui nous ennuie. Et si vous me lancez, faites attention, parce que je pourrais y passer 3 heures.
c'est la passion qui parle.
C'est tout à fait la passion qui parle. Après, moi, ce que je vois qui me rassure…
Et le quotidien. La passion, c'est que le quotidien, change. L'expérience.
Ouais, c'est ça. Change, ouais. C'est que c'est en train de changer. Nous, c'est la vocation qu'on a chez Payplug, c'est de permettre en fait à des PME de se battre à armes égales, ou en tout cas… proche possible avec ces grands géants-là et de garder leur indépendance. Pourquoi garder leur indépendance, c'est essentiel? Parce que c'est ça qui les différencie en fait, purement et simplement, de produits ultra standardisés qui viendraient d'un peu partout dans le monde, d'ailleurs pas nécessairement que de Chine. Et il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui se sont rendus compte que y avait de la valeur à créer avec ces entreprises-là. Et que aujourd'hui, le Graal, c'était plus nécessairement soit de lancer une fintech ou en tout cas une entreprise de la tech à destination des très grands groupes, soit une entreprise tech à destination d'entreprises type GAFAM. Et c'est là, en fait, moi, je vois une vraie lueur d'espoir pour l'économie française et européenne, d'ailleurs, plus généralement. C'est qu'en fait, on commence à se dire, mais en fait, toutes ces petites boîtes-là, on peut les aider à faire quelque chose. Et si on arrive à faire quelque chose avec eux, ça va être un truc de malade, ça va être une vraie lame de fond dans la manière de consommer. Et ça va rendre accessible, ça va permettre en fait à tous ces acteurs, à tous ces entrepreneurs, d'aller parler à toute cette masse de consommateurs qui n'attendent qu'une chose, entre guillemets, c'est d'avoir accès potentiellement à ces produits-là et de comprendre pourquoi est-ce que ces produits-là sont intéressants. Et du coup, il y a des offres qui se développent de paiement, mais aussi de lancement de sites, de CMS, des gens comme PrestaShop ou même Shopify qui réorientent leur communication à destination de ce type d'acteurs, des solutions d'expédition. J'entendais encore un partenaire, Boxtel, avec qui on est très copain, qui annonçait ce matin sur BFM. On est content de les voir là. On est content de les voir là et d'aller parler à ce tissu d'entrepreneurs et de PME en France et de leur dire, aujourd'hui, il y a des solutions de la French Tech qui peuvent vous aider à vous armer contre Amazon.
Merci, Flora. Moi, je vous propose de parler maintenant de la nouvelle expérience client qui va devoir s'adapter aux nouvelles règles sanitaires, les gestes barrières. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer, Stéphane ?
Qu'est-ce qui va fondamentalement changer ?
On ne rentrera plus dans un magasin comme avant, je suppose.
C'est-à-dire
en tout cas, dans les mois à venir.
Oui, bon, bien sûr. Alors ça, on l'a tous vu. Ça y est, maintenant,
on vit avec.
On a des standards, des protocoles d'hygiène qui sont pour le moins à peu près établis, standardisés dans les magasins avec le masque, le gel, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il y a certaines entreprises qui vont au-delà du standard et qui vont même jusqu'à faire certifier leur protocole de façon à ensuite se servir de ça comme finalement un point de différenciation. Donc, c'est le cas du groupe Accor qui a mis au point un protocole sanitaire dans l'ensemble de ses hôtels dans le monde entier sur la façon de se comporter pour les gens qui font le room service, le ménage dans les chambres, l'accueil des clients, etc. Il y a des protocoles qui sont maintenant certifiés par les grandes sociétés du type, tous les grands certificateurs et qui travaillent par exemple avec les Sodexo ou les industriels pour venir certifier les process de travail dans les usines ou dans les cuisines centrales ou dans les restaurants d'entreprise. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de faire que on va mettre la sécurité et l'hygiène et la précaution comme étant un critère de choix, en fait, du point de vue du client, que ça soit un consommateur ou un client B2B.
Flora,
rajouter, effectivement, aujourd'hui, les entreprises deviennent responsables de politiques de santé publique, ce qui est complètement nouveau. Et ça va forcément changer notre manière de créer du lien avec nos clients, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique. Au même titre que ça va changer notre manière, tous les trois, de retourner au bureau quand on y retournera, notre manière de parler, de travailler avec nos clients. Ça va être assez différent. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, en introduction. En télétravail, on a tous été très, très efficaces pour structurer, pour répondre à la crise. Maintenant, comment est-ce qu'on va réussir à créer ? C'est une vraie question. À distance, c'est pas simple. Ceci dit, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que tous ces petits commerçants, et vous allez me dire que je suis obsédée par ces petits commerçants, mais oui, parce qu'ils méritent qu'on parle d'eux, ont été les premiers en fait à rouvrir, à proposer une nouvelle manière de consommer. Je vais te donner un exemple auquel je pensais l'autre jour qui était intéressant, c'est que en fait les grands musées, ils sont pas prêts de rouvrir. Pourtant, les petits musées, aujourd'hui, c'est les premiers lieux de loisirs qui sont à nouveau accessibles au public. Donc, ça veut dire qu'en fait, des petits acteurs qui, normalement, sont absolument pas armés pour gérer des flux de personnes un peu complexes, par exemple, c'est les premiers à avoir dit « on va vous donner la possibilité de sortir de chez vous ». Ça, c'est assez intéressant. Je parlais des musées, mais ça va être vrai aussi pour les commerces. Et ça va être assez étonnant, déjà, parce que se comporter, parler à nos clients masqués, on ne crée pas du tout la même relation.
Ouais, et bien c'est le bon lien pour arriver à la dernière partie de cette émission, faire quelque chose de bien. Et moi, je vais rebondir parce que j'ai interviewé la semaine dernière des rencontres internationales du marketing un de nos partenaires qui s'appelle Pocket Result et qui avait apporté tout son savoir-faire à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et ça gratuitement, en lui créant une application qui lui permettait de matchmaker les besoins des hôpitaux avec les étudiants hospitaliers pour les mettre à disposition du SAMU notamment. Et moi, je trouve ça génial. Alors, faire quelque chose de bien, vous, Payplug, vous avez été à l'initiative d'une tribune du collectif French Tech, si je ne me trompe pas.
Oui,
c'est ça. On en parle un petit peu, on regarde un petit peu quel est l'objectif. Et qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans le monde de la tech?
Alors, en fait, nous, la démarche qu'on a eue, c'est de se dire, aujourd'hui, on a envie de pouvoir, dans ce contexte-là, faire quelque chose qui a un impact. Et nous, on a de la chance, hein, on fait du e-commerce. Donc, en réalité, on fait partie de ces entreprises qui s'en sortent plutôt bien. Mais ça ne nous suffisait pas et on voulait absolument trouver un moyen d'avoir un impact. Et nous, a priori, on n'avait pas moyen d'aider très facilement le personnel soignant ou bien toutes ces professions indispensables à la bonne marche de la cité. Mais on s'est dit qu'on avait moyen de trouver des solutions pour aider à la reprise. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est... on a passé quelques coups de fil... il y a quelques semaines en se disant il faut qu'on trouve un moyen, qu'on aille parler à nos partenaires pour proposer une solution la plus simple possible, parce que c'est beaucoup notre credo de donner de la simplicité dans un monde compliqué pour nos commerçants. Et on a été appelé à peu près tous nos copains de l'écosystème French Tech et Tech en général pour signer une tribune, co-signer une tribune avec nous de soutien pour les commerçants, pour les aider à trouver des solutions hyper pragmatiques et pratiques à la reprise. Et donc, on s'est tous mobilisés avec une cinquantaine de signataires pour proposer des offres qui soient simples à mettre en place, qui soient à prix réduit, voire gratuit pour une partie d'entre eux, et qui leur permettent globalement d'avoir une énorme boîte à outils pour faire repartir leur activité. Donc, c'est vrai sur du e-commerce, mais c'est aussi vrai sur de l'activité plus digitalisée en magasin. Je vais donner un exemple. Nous, en fait, une des solutions qu'on a mis en place là dans le cadre du confinement, c'est quelque chose qu'on avait déjà, c'est une de nos fonctionnalités qui permet de payer par SMS. Ouais. Et on a aidé quelques centaines de commerçants à mettre en place en fait une solution hyper simple de paiement par SMS. Ils prennent une commande par téléphone, ils font payer la commande en envoyant un SMS au client X euros, et ensuite ils se mettent d'accord pour prendre rendez-vous pour la collecte de la commande. Ça permet de sécuriser la trésorerie, donc de pas préparer des commandes à l'avance pour des gens qui ne viendraient pas les chercher, d'éviter les contacts aussi tout simplement, puisque ça évite de devoir gérer du paiement, etc., de gérer ses flux aussi et de maintenir des commandes. Ça c'est une solution qu'on avait envie de mettre à disposition là dans ce cadre de la reprise d'un commerce qui soit sans contact. Et la plupart de nos partenaires nous ont suivis dans cette démarche un peu folle. On les a tous appelés un vendredi soir en disant « Hey, est-ce qu'on sortirait pas un truc lundi ? Allez !» on est hyper contents d'une part d'avoir réussi à lancer ça, puis surtout d'avoir vu que l'ensemble de la tech s'est mobilisée derrière nous et a dit « Bah oui, bien sûr !» Bien sûr, c'est indispensable et ça fait partie aussi de notre responsabilité de proposer quelque chose qui soit simple et performant pour ces commerçants.
Ça, c'est ce qu'on appelle du storytelling plein de valeurs, d'authenticité et qui est sain, effectivement. Stéphane, toi, on en parle souvent, Stéphane, à chaque fois, tu as sur le bout des lèvres ces mots-là, faire quelque chose de bien. Quelles sont les bonnes...
Oui, on a un bel exemple de faire quelque chose de bien parce que c'est...
Bien sûr.
C'est admirable. Et puis ça, tu sais quoi, ça donne de l'énergie. C'est-à-dire que comme on est un peu tous ensemble dans cette crise difficile, c'est très important d'avoir une influence comme ça positive sur les autres. Donc moi je trouve ça super ce collectif de la French Tech.
Mais tu as utilisé le terme, Stéphane. Moi je pense que le terme collectif, c'est quelque chose qu'on a appris. Et on a appris aussi que ça nous dynamisait, ça nous donnait du peps pour faire les choses et qu'on faisait les choses beaucoup plus mieux déjà et beaucoup peut-être beaucoup plus vite, et tout ça avec du sens. En général, le collectif, il se construit sur des valeurs qui sont saines, qui sont encore une fois authentiques, et ça c'est la preuve, cette tribune du collectif French Tech. Est-ce que vous avez remarqué d'autres bonnes actions autour de vous?
Moi, je soutiens une excellente bonne action, une excellente initiative qui est celle de Mohamed Khodja avec les podcasts de B2B Stories, parce que on, tout l'écosystème du B2B est comme ça, dans un moment un peu difficile, où on est dans l'incertitude. C'est pas évident parce que chacun est dans la phase d'urgence. Donc, redonner comme ça de la visibilité, partager, faire échanger au sein de l'écosystème, c'est une excellente initiative. Voilà.
Donc, d'autant plus, Stéphane, je peux l'annoncer là à l'antenne durant cette émission, c'est qu'on va, on a fixé les dates pour l'ERIM, les prochaines rencontres internationales du marketing que nous relocalisons à Paris tout début octobre, le 1er, le 2 octobre, et le B2B Summit qui aura lieu au mois de novembre, fin novembre, mais je donnerai un peu plus d'informations et ça sera l'occasion, le plaisir pour tous nous retrouver. Est-ce que vous voulez rajouter certaines choses, mes amis? Flora?
Bah écoute, le mot de la fin, je vais reprendre rapidement ce que disait Stéphane. Je pense que nous, notre espoir là vraiment pour la suite, c'est de voir effectivement à quel point la force du collectif va nous aider à nous relancer dans l'avenir. Mmh. Et là, on a passé un petit bout de temps à discuter de ce qu'on imaginait, de ce qui allait changer, de tous ces mouvements qui étaient en train de se faire aujourd'hui dans le B2B, dans le marketing. Et j'espère vraiment que ça, ce sera un de nos apprentissages et que ça fera notre force pour l'avenir.
J'en suis persuadé en tout cas. Stéphane ?
Eh bien, moi, je vais citer une phrase d'Étienne Klein que j'adore. Ce n'est pas parce que l'horizon est bouché qu'il n'y a rien à contempler.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Stéphane et Flora, pour cette émission Back on Stage. Quelle priorité en jeu pour les commerçants dans leur retour sur scène ? Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt, mes amis.
Merci.
Merci Mohamed, à bientôt.